Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine dans RFI Matin. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. C'est un travail délicat et dangereux. Reportage dans un instant avec une équipe de déminage de N'Djamena après l'explosion d'un dépôt de munitions il y a 2 semaines dans la capitale tchadienne. Les autorités affirment qu'aujourd'hui la ville est nettoyée à 95% des engins explosifs qui avaient été éparpillés aux quatre coins de la ville. Dans ce journal également, la République démocratique du Congo, malgré une polémique sur l'identification des victimes, des indemnisations ont commencé à être versées après la guerre de 6 jours en l'an 2000. Conflit pour lequel l'Ouganda a été condamné à payer 325 millions de dollars de dédommagement. Et puis 2 portraits à suivre, celui de Brenda Biya, la fille du président camerounais, qui a défrayé la chronique cette semaine en affichant son homosexualité, et celui de Ronald Lamola, le nouveau et jeune ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud. Des missiles solaires et même des bombes au phosphore. Voilà ce que les équipes de déminage ont récupéré ces derniers jours à N'Djamena, au Tchad, conséquence de l'explosion d'un dépôt de munitions le 18 juin dernier. La déflagration a fait 10 morts d'après le dernier bilan officiel. Et le souffle a également projeté des milliers d'engins explosifs aux quatre coins de la ville. Aujourd'hui, les autorités assurent que 95% de N'Djamena a été nettoyé au gré des signalements des habitants. Notre correspondant Carole Valade a pu suivre l'une des équipes de déminage.
Ok, ici j'approche auprès de Enobi.
Avançant à pas feutrés, simplement protégé par un casque, l'adjudant-chef Patayamou se saisit à main nue d'un obus chargé gisant au milieu d'une concession.
Depuis le 18, je pense que moi avec mes équipes, on n'a pas eu le temps à faire des repos en dehors de 2 heures de temps. Parce que c'est notre boulot. Un démineur, tu es engagé d'aller jusqu'au bout. Je ne peux pas laisser des munitions auprès de la population.
Le téléphone du lieutenant-colonel Hassan se met à sonner.
Une roquette qui est enfuie au sol vers Amsinene 2. Donc on doit se porter là-bas. C'est le devoir. C'est le devoir. Il faut y aller.
Alors c'est parti.
Merci.
On vous suit.
Il faut creuser pour extraire l'engin de la boue. Sous le regard inquiet du chef de quartier Mahamad Djibril.
Ce sont les enfants qui l'ont trouvé ce matin en jouant dans les flaques. On a tout de suite appelé le génie militaire.
Lieutenant-colonel Hassan.
Je crois bien qu'on est on tire vers la fin. Aujourd'hui, on n'a que 2 appels. Je mène hors du danger. Principalement, il faut être toujours vigilant. Si jamais on voit un projectile quelque part, il ne faut jamais minimiser ce genre de choses. Il faut faire signe et nous, on va se porter aussitôt sur le lieu.
Les projectiles récupérés devraient être détruits dès la semaine prochaine sur un site sécurisé en dehors de la capitale. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Tout est allé très vite hier en République démocratique du Congo. 25 militaires ont été arrêtés, jugés et condamnés à la peine de mort, le tout dans la même journée. Peine capitale, notamment pour fuite devant l'ennemi, alors que des combats ont toujours lieu dans l'est du pays, entre l'armée congolaise et ses alliés d'une part, et d'autre part les rebelles du M23 soutenus eux par le Rwanda. Notez qu'au mois de mai dernier, 8 autres soldats, dont 5 officiers, avaient eux aussi été condamnés à la même peine, la peine de mort pour laquelle le gouvernement congolais a dit cette année sa volonté de l'appliquer à nouveau. La RDC aussi, où le FRIVAO a commencé ses premiers versements. Le FRIVAO, c'est l'organisme public en charge de verser des indemnisations pour ce qu'on appelle la guerre de 6 jours en juin 2020, notamment autour de la ville de Kisangani, pour laquelle l'Ouganda a été condamné à payer 325 millions de dollars de dédommagement. Pour l'instant, Kampala en a payé environ la moitié et le FRIVAO a lancé donc des versements pour la province de la Tchopo, celle de Kisangani, malgré les critiques sur l'identification des victimes. Correspondance de Joseph Kaongo.
Lancé le 8 juin, ce processus de réparation des victimes n'est pas apprécié par tous. La lenteur de traitement des dossiers est décriée par cette victime de la guerre de 6 jours qui n'a pas voulu révéler son identité.
Depuis qu'on attendait cet argent, on a sorti une seule liste et c'était le 10 juin qu'on a vu cette liste de 139 personnes qui devaient être payées. Mais à la date du 2 juillet, à la banque, seulement 139 personnes étaient en attente et les victimes deviennent impatientes.
Au-delà du processus, les montants même des indemnisations sont souvent jugés trop faibles. Les sommes forfaitaires jusque-là varient de 280 dollars à 1040 dollars et ne constitue que la première tranche avant que toutes les victimes ne soient identifiées dans d'autres provinces. Mais pour Gentil Sefou de l'organisation de la société civile Lucha, ce cheminement de Frivao ne respecte pas l'arrêt de la Cour internationale de justice.
L'arrêt de la CIG concerne l'espace Grand Oriental, la province de l'Ituri, province de Bazouélé et de Haute-Ouélé sont concernés. Frivao devait répertorier, enregistrer les victimes de partout là-bas, mais malheureusement, Frivao a fait la vis des procédures. Au lieu de continuer d'abord à enregistrer les victimes, Frivao a procédé aux remises des montants forfaits aux victimes seulement de Kisangani.
Pour l'heure, selon l'agence congolaise de presse et la société civile, 3163 victimes sur 14 000 identifiées à Kisangani ont été déclarées éligibles à l'indemnisation par le Frivao et c'est seulement plus ou moins 100 personnes qui ont déjà touché leur indemnisation. Joseph Kaongo, Kisangani, RFI.
RFI, 7h35 à Yaoundé au Cameroun, où les autorités ne se sont pas encore exprimées après que la fille du président Paul Biya, Brenda, a affiché son homosexualité sur les réseaux sociaux, alors qu'au Cameroun, les relations entre personnes du même sexe peuvent conduire en prison. Sa sortie, en tout cas, courageuse pour certains, scandaleuse pour d'autres, relance le débat sur la situation des minorités sexuelles dans le pays. Et notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba, retrace son parcours.
Parmi les 5 enfants du chef de l'État, Brenda Anastasie Biya Iyenga, de son nom complet, est l'unique fille du président. Née sous les lambris dorés du palais d'étudi en 1997, elle est, avec son frère Junior Biya, scolarisée dans l'enceinte même du palais, dans une école expressément créée pour le personnel de la présidence, que fréquente aussi la progéniture des ministres et hauts fonctionnaires de Yaoundé. Elle intègre ensuite le prestigieux collège du Léman, près de Genève en Suisse. Aux États-Unis, où elle s'envole plus tard, elle fait surtout parler d'elle par des sorties qui alimentent les polémique, comme lorsqu'après une prise de bec, elle accuse de racisme un taximan à qui elle vient de régler une course à $400. Brenda est alors jugée dispendieuse, son goût pour le luxe est pointé du doigt. Revenue au Cameroun, elle est, avec son frère Junior, admise à l'ENAM, l'école normale d'administration et de la magistrature en 2017. Elle semble se recentrer sur une carrière en politique ou dans la haute administration du pays, mais Brenda prend les observateurs de cour. À nouveau installée en Suisse, celle qui est devenue chanteuse se fait appeler Brie, puis King Nasty, et surprend son monde en décembre 2023 en annonçant la sortie de son single de rap.
Polycarpe Essomba. Le temps que tous les 75 ministres et ministres délégués prêtent serment, la cérémonie a duré plusieurs heures hier au Cap en Afrique du Sud et le nouveau gouvernement est donc désormais en fonction, gouvernement de coalition avec au total une dizaine de partis. Il reste dominé comme l'Assemblée nationale sud-africaine par l'ANC, le parti du président Cyril Ramaphosa, l'ANC qui conserve les principaux ministères dont celui par exemple des Affaires étrangères, aujourd'hui occupé par Ronald Lamola, ministre de la Justice ces 5 dernières années, et qui prend donc du galon son portrait avec Romain Chanson.
Le visage de Ronald Lamola a fait le tour du monde quand il s'est rendu à la Cour internationale de justice pour porter les accusations de génocide à Gaza contre Israël. Il était ministre de la Justice et il accompagnait la ministre des Affaires étrangères, qu'il remplace aujourd'hui. Ronald Lamola devrait suivre ses pas. Cet homme de 40 ans est un pur produit de l'ANC. Il était vice-président de la branche jeunesse du parti. Il siégeait donc au sous-comité aux affaires étrangères, un domaine qu'il connaît bien. Il devrait défendre la ligne du parti. Soutien à la cause palestinienne, au peuple sahraoui, amitié avec Cuba, Pékin et Moscou, tout en entretenant de bonnes relations avec les États-Unis ou l'Ukraine. Son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, a d'ailleurs salué sa nomination sur Twitter. On sait que l'Ukraine cherche des soutiens sur le continent et que l'Afrique du Sud avait tendance à pencher du côté russe au début de la guerre. Mais l'Afrique du Sud défend sa position de non-aligné et se plaît à parler à tout le monde. Un dialogue qui sera nécessaire pour l'organisation du G20 en Afrique du Sud à la fin de l'année 2025. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
L'Afrique du Sud où l'histoire est finie entre Roulani Mokwena et les Mamelodi Sundowns, le club de football de Pretoria, l'un des tout meilleurs d'Afrique et du continent, qui se sépare de son entraîneur, Roulani Mokwena, qui vient de passer 4 ans fructueux à la tête de ce qu'on nomme les Brésiliens d'Afrique et qui visiblement n'est pas à l'origine de son départ, Babacar Diarra.
Je ne voulais pas partir, on m'a forcé la main. les traits tirés, la voix cassée, Rulani Mokoena n'a pas souhaité approfondir dans son seul entretien sur une radio sud-africaine. Mokoena a coaché dans les catégories de jeunes, assisté le légendaire Pitso Mosimane à la tête de l'équipe Fagnon avant de la prendre en main. D'abord en binôme dès 2020, puis seul, 2 ans plus tard, dans ce club boulimique de titres, le technicien a pu imposer son style et perpétuer l'exigence de trophées. 4 titres de champion, 3 de meilleurs coachs sud-africains et 1 sacre dans l'édition inaugurale de l'African Football League. Le seul sur le plan continental, car son Mamelodi n'aura jamais remporté la Ligue des Champions. Un argument pour le licencier, pas si sûr si l'on en croit la presse sud-africaine qui évoque plutôt des divergences de vues sur le mercato avec le directeur sportif Fleming Berg. Désormais libre, Mokoena ne devrait pas manquer d'offres. Son charisme dépasse les frontières de l'Afrique du Sud. Un effet domino n'est pas à exclure non plus avec les cadres du Mamelodi comme le milieu Thébo Mokoena ou l'attaquant namibien Peter Chaloulilé.
Babacar Diarra du service des sports de RFI. Et puis avant de retrouver Nathalie Amar, notre dossier nous emmène ce matin au Sénégal, où comme dans 13 autres pays du continent africain, la monnaie est le franc CFA, le CFA d'Afrique de l'Ouest en l'occurrence. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye souhaite d'ailleurs l'abandonner et changer de monnaie. Et c'est pour comprendre les rouages et l'histoire du CFA que la journaliste sénégalaise Kéti Lenan Ndiaye a réalisé le documentaire « L'argent, la liberté, une histoire du franc CFA ». Et notre correspondante Juliette Dubois à Dakar a assisté à l'une des projections.
Le film commence par les albums de famille de la réalisatrice et ses souvenirs d'une grand-mère lui donnant une pièce de 50 francs CFA. Kéti Lenan Ndiaye a toujours connu cette monnaie, mais elle a décidé de se plonger dans son histoire il y a 10 ans. Elle interviewe alors un économiste.
C'est en 2014 de Thierry Amougou qui a lâché comme ça au détour d'une réponse. Le franc CFA, c'est vraiment une question sur laquelle il faudra bien un jour qu'on s'arrête. C'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis posé la question, tiens, le franc CFA, je n'en ai jamais entendu parler.
Pendant 7 ans, elle se plonge dans l'écriture et la collecte d'images et de témoignages.
Il y a eu d'abord l'exploration des livres, de tout ce qui a été publié. Et puis ensuite, ça a été l'exploration des archives. Et c'est vraiment à travers les archives que j'ai trouvé la manière. Et pour moi, bon, c'était la fable et le conte.
Ses intervenants sont des économistes comme Dongo Samba Sylla, des hommes politiques comme Lionel Zinsou ou des écrivains comme Félouine Sarr. Le film est riche en informations, mais Kéti Lenan Ndiaye fait un effort de pédagogie pour interroger les rapports entre la France et ses anciennes colonies.
Une thèse sur le franc CFA, c'est « je vais vous raconter une histoire ». C'est une histoire parce que c'est la grande histoire et toutes nos histoires individuelles.
L'idée de tisser ces histoires, de la colonisation à la dévaluation de 1994, est illustrée poétiquement pendant le film par des images de tisserands, toujours accompagnées de la voix de la réalisatrice.
Pour la génération de mes parents, les luttes d'indépendance avaient mobilisé l'espoir de reprendre le contrôle.
Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Un documentaire qui sera diffusé, notamment dans les lycées sénégalais à partir du mois d'octobre. Et pour ceux qui l'ont vu hier, il était en tout cas bienvenu pour poser les bases du débat.
Il y a des choses qu'on connaît, l'arrimage à l'euro ou au franc avant. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement d'avoir des explications d'économistes aussi qui sont beaucoup plus dans le fond et d'avoir tout ça réuni dans un récit très informé mais en même temps très poétique aussi. Et c'est ça que je trouve génial de ce film. Ouais.
Le film là, ça nous a rêvé parce qu'il y a des choses que nous, Africains, on ne savait pas.
Quand on n'a pas une souveraineté monétaire, on ne peut pas être indépendant. On comprend totalement ça.
Je pensais que c'était un film intéressant, que ça permettait aussi de sensibiliser la jeunesse.
Il y a des choses que vous ne saviez pas, que vous avez apprises ?
Ouais, bien sûr, plein de choses. L'histoire avec la dévaluation de 50% qu'il y a eu, ça je ne savais pas. Ça donne à réfléchir et peut-être à trouver d'autres idées pour remplacer le fait de CFA.
Je pense qu'effectivement, le débat est posé. Est-ce que les populations ont suffisamment confiance en leur propre économie, en leur propre force ? Bon, tout le monde dénonce.
À Dakar, il est maintenant 6h44, 2h de plus, ici à Paris. Vous êtes avec Nathalie Amar pour la suite d'RFI Matin.